Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Méconnu en France, où ses films ont été peu distribués, Kon Ishikawa fut pourtant l'un des cinéastes japonais importants de l'après-guerre. Après des débuts dans le cinéma d'animation, Ishikawa enchaîna mélodrames et comédies populaires avant de donner une nouvelle orientation à sa carrière au milieu des années 50 avec l'adaptation d'œuvres littéraires plus ambitieuses. C'est « La harpe de Birmanie » en 1956, son premier film de guerre, qui le fit connaître à l'étranger où il devint un habitué des grands festivals, obtenant en 60 le prix du jury à Cannes pour « L'étrange obsession ». En 1964, pour connaître le cinéma, Jean Mitry projetait aux spectateurs du studio Parnasse et aux auditeurs de la RTF « Feu dans la plaine », l'un des films importants de Ishikawa, sorti 5 ans plus tôt. Tableau sans phare de la guerre, cette adaptation du roman de Shohei Oka raconte la descente aux enfers, jusqu'au cannibalisme, de soldats japonais aux Philippines dans les derniers mois de la guerre du Pacifique. Moins de 15 ans après la fin du conflit, le film ne manqua pas de provoquer des réactions hostiles chez les critiques et les spectateurs, au Japon comme ailleurs, mais aussi l'admiration de beaucoup d'entre eux.
La RTF présente en différé « Connaître le cinéma », une émission publique de Jean Mitry et Philippe Hainaut. Aujourd'hui, le cinéma japonais, avec la projection d'un dessin animé japonais et « De feu dans la plaine » de Kon Ishikawa. Commentaires et débats avec la participation de Pierre Billard, Jean-Louis Chéret, Pierre Philippe et des spectateurs du studio Parnasse à Paris.
La méconnaissance, ou plutôt l'ignorance, du cinéma japonais dans nos contrées est un phénomène choquant. D'abord parce que, depuis 1920, le Japon est l'un des trois plus gros producteurs de films au monde, avec les États-Unis et l'Inde. Vous me direz, c'est seulement la qualité qui nous importe. Alors, il faut dire que l'école japonaise compte une bonne vingtaine de cinéastes de premier plan, auxquels on doit des dizaines de chefs-d'œuvre et des centaines de films remarquables. On peut considérer que, depuis une bonne quarantaine d'années, le cinéma japonais est globalement à mettre à peu près au niveau du cinéma français. Et de 1950 à 1955, on peut aujourd'hui considérer que le cinéma japonais a été le premier du monde qualitativement. Ce cinéma japonais est évidemment le reflet d'une civilisation originale. Originale en tout cas pour nous, car la civilisation japonaise est en partie faite d'emprunts aux civilisations extrême-orientales. Et pour comprendre le cinéma japonais, il faudrait évidemment avoir une certaine connaissance de cette civilisation lointaine pour nous, et quelquefois même indéchiffrable. Le Japon moderne que nous considérons aujourd'hui, puisque le cinéma est né pendant ce Japon moderne, commence, vous le savez, avec une date capitale, c'est la date de 1868, qui inaugure ce qu'on appelle l'ère Meiji. L'ère Meiji s'étend de 1868 à 1912. C'est une période d'industrialisation accélérée. Sur le plan des institutions, c'est une période de démocratisation autoritaire. Et sur le plan politique, c'est une période d'expansion. Le Japon rêve de devenir la grande puissance de l'Extrême-Orient. Pour cela, évidemment, il va affronter trois grandes puissances, la Russie, la Chine et les États-Unis. Dès 1896, les Japonais importent les appareils des frères Lumière et les appareils d'Edison. Tout de suite, ils voient l'intérêt du cinéma balbutiant et un certain nombre d'hommes d'affaires vont créer les bases industrielles, techniques, commerciales de ce cinéma. On va créer des ateliers de prise de vue, les premières salles, et puis tourner les premiers films dans des petites sociétés. Des petites bandes d'actualité, scènes de rue, danse kabuki, et le premier film joué en 1899 est la reconstitution de l'arrestation d'un voleur. Dès ses origines jusqu'à 1918, le cinéma japonais, au fond, ne nous intéresse que sur le plan de son évolution matérielle, de son essor économique et technique. Sur le plan de la qualité des œuvres, il y a peu de choses à dire. 1912, c'est une très grande date dans l'histoire du cinéma japonais parce que c'est la fondation du premier trust japonais de cinéma. L'histoire du cinéma japonais se ramène essentiellement, sur le plan matériel, à l'histoire de cinq grands trusts. Le premier, c'est la Nikkatsu, fondée en 1912 par la fusion des quatre principales sociétés existantes. Et ce qu'il faut retenir de ces efforts jusqu'alors, c'est qu'il y a deux types de films. D'un côté, les films Jidaijeki, qui sont les films de l'époque ancienne. On dirait ici les films historiques. C'est-à-dire, très simplement, les films dont l'action est située avant 1868, avant l'ère Meiji. Et les films Jandaijeki, qui sont les films modernes, à sujet contemporain, c'est-à-dire les films dont l'action se situe après 1912, l'ère de Meiji constituant une période intermédiaire. Les films anciens seront tournés pendant très longtemps, de préférence à Kyoto, l'ancienne capitale. Les sujets modernes seront tournés, eux, à Tokyo, la capitale moderne. Les films modernes de Tokyo seront tournés avec des acteurs de théâtre qui appartiennent au théâtre Shimpa, c'est-à-dire au théâtre moderne, qui essaie d'adapter au Japon les formules littéraires de l'Occident. Tandis que, à Kyoto, capitale de la tradition, on essaiera de tourner des films s'inspirant des traditions littéraires anciennes avec, comme interprètes, des acteurs du kabuki. Mais le drame, c'est que vers 1910, les acteurs de kabuki refusent de paraître à l'écran et on sera obligé de recruter d'autres acteurs qui seront rapidement populaires, des acteurs qui viennent directement vers l'écran. Mais jusque-là, donc jusqu'en 1918, peu d'œuvres intéressantes, sinon des œuvres révélant certaines traditions déjà, c'est-à-dire des œuvres qui exploitent au fond les traditions de l'histoire, de la littérature et de l'art japonais, allant de préférence du côté des luttes féodales, qui chantent des amours impossibles ou qui traitent de belles légendes. Ainsi, vous avez vu dans l'une de nos émissions de l'an dernier un film très beau qui s'appelle « Les contes de la lune vague après la pluie ». Eh bien, cette adaptation littéraire avait déjà été tournée en 1920. Le cinéma japonais est un cinéma de séries et de remakes. On tourne au moins une fois par an, quelquefois deux ou trois, l'adaptation d'un des grands classiques de la littérature japonaise, « La vengeance des 47 ronins ». Et c'est l'un des premiers films japonais célèbres en 1913. Mais il faut surtout dire que de 1918 à 1928, le cinéma japonais là va connaître un essor qualitatif extraordinaire. D'où vient cette révolution? La suppression des oyama. Jusqu'alors, et suivant une tradition du spectacle japonais, tous les rôles des films japonais étaient interprétés par des hommes. Ce sont des hommes qui jouent les rôles de femmes. Et par exemple, le réalisateur de La Porte de l'Enfer, Teinosuke Kinugasa, a commencé sa carrière comme jeune première. Eh bien, ce fut une révolution quand un cinéaste japonais, en 1919, a imposé à l'écran les premières actrices femmes. Et désormais, on a suivi. Deuxième révolution importante, c'est l'élimination des benshi. Ce sont des compteurs qui sont derrière l'écran ou à côté de l'écran et qui, en face d'une foule attentive et illettrée souvent, émotive. Le cinéma au Japon a une clientèle, dès cette époque, une clientèle vaste, mais surtout populaire, bien sûr. Eh bien, les benshi racontent l'histoire. Et ils la racontent quelquefois de façon tout à fait personnelle, au point de réinventer l'histoire. Il y a des benshi qui ont un bagou extraordinaire, qui sont de véritables bonimenteurs. Il y en a qui sont des poètes. Il y en a qui improvisent des dialogues. Et on connaît ce cas extraordinaire au Japon, de benshi tellement célèbres que la foule se déplace pour entendre tel benshi et non pas pour voir tel film. Eh bien, ce fut une révolution là aussi, quand des réalisateurs japonais ont supprimé les benshi pour les remplacer par des cartons explicatifs entre les images. Ensuite, eh bien, il fallait imiter le génie des Japonais et, vous le savez, l'imitation. Ils ont importé au Japon les meilleurs films de l'étranger. Des films américains et quelques films européens. Quelques techniciens japonais ont fait des séjours à l'étranger et notamment aux États-Unis. Ils en reviennent formés aux techniques occidentales et déjà les lois du découpage et du montage bien assimilées, les règles de la photographie bien connues, ils vont essayer de créer un cinéma japonais authentiquement cinématographique et authentiquement japonais. Ils vont être aidés par l'organisation extraordinaire d'un certain nombre de puissants financiers qui ont le sens du futur. Et en 1920 se fonde un deuxième trust considérable, c'est la Shochiku, qui va jouer la carte de la qualité, la carte de l'expérience et donner leur chance à des jeunes. On cite un réalisateur qui avait fait 3 longs métrages à 17 ans. Et d'autre part, il y a le public. Le public au Japon a un engouement prodigieux pour le cinéma. Comme le pays est surpeuplé, vous imaginez la très vaste clientèle à laquelle on s'adresse. Et les places ont beau être bon marché, on gagne énormément d'argent. Comme les films sont produits par quelques grosses maisons, elles peuvent aussi prendre des risques. Si l'un ne marche pas, tant d'autres marcheront à côté. Et enfin, il faut avoir en mémoire la situation extraordinaire sur le plan politique de ce pays. Il y a, si vous voulez, à l'intérieur un affrontement extrême entre les forces du passé, représentées essentiellement par le clan des militaires, qui veulent partir à la conquête des pays étrangers, qui veulent se tailler un empire par-delà les mers, et qui ont commencé avec l'annexion de la Corée. Et de l'autre côté, un certain nombre d'intellectuels ou de bourgeois qui veulent accélérer la démocratisation. Il y a d'autre part une grave crise économique qui pèse sur le Japon vers 1920-23. Plus grave, le 1er septembre 1923, un tremblement de terre à l'échelle japonaise, c'est-à-dire qui fait en quelques heures plus de 100 000 morts, va anéantir le cinéma japonais. Les studios sont détruits, les laboratoires, les cinémathèques, il va falloir repartir à zéro. En 1924, l'année suivante, le Japon produit 875 films et en importe 898. Deux records du monde battus. La situation va se refléter très nettement dans le cinéma. Il va y avoir toujours ces deux tendances, sujet historique, sujet moderne, mais qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, un extraordinaire pessimisme va s'y refléter et un ton âpre de revendication qui n'évoque, si vous voulez, que l'école polonaise depuis 1956. C'est une espèce de nihilisme qui va triompher sur les écrans japonais vers la fin du cinéma muet. 1929, c'est d'une part l'avènement du cinéma parlant. Et tout de suite, les Japonais découvrent le cinéma parlant, dont ils avaient déjà fait des essais d'ailleurs. D'autre part, 1929, c'est le krach de New York, il ne faut jamais séparer ces deux événements. Et c'est donc une crise économique qui va conduire au Japon, comme dans d'autres pays, à une menace fasciste. Les coups d'État se multiplient, des sociétés secrètes tentent des coups de force, et le Japon va connaître une période d'instabilité politique, aggravée par la politique extérieure, puisque bientôt la guerre va éclater avec la Chine. La guerre, pour les Japonais, c'est 1937, et ça va être une épopée militariste qui va se terminer, vous le savez, le 15 août 1945, par une catastrophe sans précédent. Eh bien, le cinéma japonais sonore des débuts, 1929 à la capitulation, 1945, au fond, va se diviser en deux grands courants. Il y aura d'un côté, si vous voulez, les forces militaires qui vont essayer d'imposer un cinéma de propagande, un cinéma exaltant les vertus de la virilité, les vertus traditionnelles, et de l'autre côté, un cinéma de critique sociale qui peut être plus ou moins engagée, quelquefois plus ou moins humoristique, en tout cas un cinéma qui prend ses distances avec le militarisme japonais, mais qui aura de plus en plus de mal. Mais il y a une grande école réaliste avant-guerre, et par exemple Mizoguchi est surtout célèbre au Japon comme le grand maître du réalisme japonais d'avant-guerre. À noter dans ce courant réaliste un certain nombre de thèmes qui reviennent toujours. Le thème essentiel qu'on verra dans les plus beaux films de Mizoguchi, Les Sœurs de Gion par exemple, c'est le thème des prostituées. Et il y a un courant plus près du réel quotidien, un cinéma qu'on qualifie généralement d'intimiste, où les problèmes de la famille sont déterminants. Le Japon, pays surpeuplé, est un pays où l'on adore les enfants. Les films extraordinaires, par exemple, du grand réalisateur Yasujiro Ozu, qui vient de mourir, la vie des enfants, la vie du couple, les relations avec les vieux parents, avec les vieillards, les relations avec les enfants, le problème des générations, le problème aussi du travail et des loisirs, de l'individu et de la société. Et ainsi, par petites touches, dans quantité de films où reviennent les mêmes problèmes, les mêmes personnages, souvent joués par les mêmes acteurs, se dessine un tableau tout à fait intéressant. Au fond, l'histoire du cinéma japonais de 1929 à 45, c'est l'histoire du Japon civil contre le Japon militariste. Nous allons vous projeter Feu dans la plaine, une œuvre remarquable d'un réalisateur japonais important d'aujourd'hui, Ishikawa, tableau du Japon traumatisé en 1945 par ce cataclysme dont il vient de sortir.
En février 1945, dans une île des Philippines, les débris de l'armée japonaise encerclée luttent désespérément contre les troupes américaines. Un sergent renvoie brutalement un de ses hommes, Tamura, qui n'a pas réussi, bien que tuberculeux, à se faire accepter dans un hôpital de campagne qui regorge de blessés et de malades. Tamura promet de se faire sauter avec une grenade, mais il n'est nullement décidé à mourir. Seul d'abord, puis avec d'autres frères d'armes, il connaît les terribles souffrances de l'homme traqué, réduit à la condition d'animal affamé. Il rejoint enfin un groupe hétéroclite de combattants japonais qui doivent embarquer. Mais pour atteindre le port, il leur faut traverser une route sillonnée par les tanks américains. C'est une effroyable hécatombe dont Tamura est un des rares survivants. Il renonce à se rendre, par peur d'être massacré, et préfère se cacher avec deux autres soldats. L'un, blessé à la jambe, échange du tabac contre de la viande de singe que l'autre tue pour lui. Tamura s'aperçoit avec horreur que les singes ne sont autres que des soldats japonais exténués qu'on achève. Ses deux compagnons s'affrontent. Tamura tue le survivant. Il est temps pour lui de revenir au règne humain. Il se dirige alors vers les feux allumés par les partisans ennemis pour attirer les Japonais. Il sera comme les autres abattu.
nous allons, si vous le voulez bien, commencer par discuter de ce film qui, je pense, vous a fait une forte impression, en compagnie de nos amis Pierre Billard, rédacteur en chef de Cinéma 64, Pierre-Philippe, que vous avez déjà vu à cette émission, et Jean-Louis Chéret, que vous entendez souvent, puisqu'il est le directeur de cette salle. Alors, tout d'abord, que pensez-vous de ce film? Vous avez vu quantité de films de guerre, car hélas, c'est un sujet inépuisable. En quoi celui-ci est-il différent? Que pensez-vous de sa qualité? Madame?
Je dis que ce film dépasse en horreur tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, et que vraiment, pour nous redevenons absolument comme des bêtes, n'est-ce pas, devant un pareil spectacle. C'est une horreur. C'est abominable.
Effectivement, la réaction du spectateur normal devant ce film, c'est de dire c'est horrible, c'est cruel, et même certains diront c'est sadique. J'aimerais que on s'exprime librement sur ce point.
Je trouve que c'est inutilement cruel. Inutilement cruel. Et ces scènes de dépeçage humain.
Bon.
Je suis terrifiée de voir que la misère, la faim, l'horreur de la guerre peut faire devenir un être humain, n'est-ce pas, peut faire redevenir un être humain absolument comme la bête.
Et vous vous sentez concernée dans la mesure où vous êtes comme lui?
Ah mon Dieu.
C'est cela, oui.
J'essaie de me mettre dans les mêmes conditions et je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait? Je n'en sais rien. Mais c'est absolument épouvantable de déjà se poser ce problème.
Ça. Donc vous n'employeriez pas le mot inutile?
Oui, pour vous, cette cruauté n'est pas inutile.
Ce n'est pas inutile.
Il n'y a pas de complaisance.
Inutile, mais seulement, c'est tout de même un film qui est peut-être trop poussé par moments parce qu'on n'y sent plus rien d'humain et alors c'est forcené. C'est un film forcené.
Justement, Pierre-Philippe.
Je pense que les gens qui trouvent ce film horrible sont des gens qui ne sont pas entrés dès le début dans le film parce que lorsqu'on suit pas à pas les personnages, lorsqu'on s'est intégré à eux, les violences paraissent tout à fait normales. Même le dépeçage final paraît quelque chose de très,
bah oui,
très quelconque, finalement.
Par-dessus le marché, c'est un film japonais. On sait très bien qu'en principe, les Japonais sont passés, sont facilement harakiri. Ils jouent facilement avec la mort. Ce sont des gens qui ont le couteau facile. Je ne sais pas, il me semble que, évidemment, maintenant, ils ont beaucoup évolué, peut-être, mais enfin.
Non, mais ils sont revenus.
Jean-Louis Chéret.
Maintenant, ils sont revenus au bœuf Mironton, comme tout le monde.
Probablement un mythe, comme vous dites.
Bon, revenons aux choses sérieuses. Est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui pensent que ce film est, disons, complaisant?
Le sujet du film, il est tiré d'un roman qui est très connu au Japon, qui a été édité en France d'ailleurs. Je vous conseille vivement de lire parce que le roman est encore beaucoup plus atroce, beaucoup plus intolérable dans l'horreur que ne l'est le film. Mais ça a une bonne raison, il faut bien vous dire que les événements auxquels vous venez d'assister, ce ne sont pas du tout des vues de l'esprit, mais des événements qui se sont effectivement produits.
Madame, s'il vous plaît.
Moi, j'estime qu'au début, il n'était pas comme ça, aussi cruel. Seulement, ce sont les ordres de la guerre et obligatoirement cette guerre qui était infecte qui les rend comme ça. Par exemple, la scène qui ne paraît pas atroce et que j'ai trouvée atroce, moi, c'est la chaîne des chaussures. Quand ils changent de chaussures l'une pour l'autre. Alors on arrive, ce pauvre type, il arrive à mettre des chaussures trouées alors qu'il trouve ça parfait. Et bien certainement, s'il n'y avait pas eu la guerre, il n'aurait pas fait ça.
Oui. Oui, je crois que vous mettez le doigt sur quelque chose de très intéressant, c'est que le film montre l'engrenage. La guerre, c'est tout de même le civil pris dans un engrenage dont il ne peut pas sortir et qui le transforme progressivement en bête.
La dégradation de la dignité humaine.
L'auteur a voulu montrer le symbole de l'horreur de la guerre. C'est pas douteux.
Pierre-Philippe.
Oui, madame n'a pas tout à fait tort de parler de symbole parce que, à vous entendre parler, discuter, on a l'impression que c'est un film terriblement naturaliste. Alors que c'est un film, justement, qui se partage assez curieusement, il faut bien le dire, entre un réalisme très cru et aussi une stylisation, une architecture assez. Enfin, presque une abstraction dans l'image et dans le récit, même par moments. Ça me paraît extrêmement caractéristique de la manière d'Ishikawa.
Moi, personnellement, je ne suis pas tellement d'avis de Philippe, parce que je crois que ce qui fait le prix d'Ishikawa, contrairement à beaucoup d'auteurs qui font, non sans raison, un peu toujours la même thématique, c'est que sur les trois films que nous connaissons de lui qui sont sortis en France, il se trouve que tous les trois sont de genre absolument différent. Il semblerait qu'il n'y a pas tellement de commune mesure entre l'un et l'autre. L'Arbre de Birmanie est un film admirable, d'ailleurs, que je vous conseille infiniment de voir, mais qui est d'un esprit, d'un style et d'un ton tout à fait différent au film que vous venez de voir, puisque c'est vraiment un poème. Si on prend L'étrange obsession, c'est tout à fait autre chose, encore une fois, puisqu'il s'agissait, il traitait le problème de la sénilité sexuelle. Non, le style, je ne vois pas de commune mesure entre le style de Feu dans la plaine et le style de L'Arbre de Birmanie, qui est tout à fait à l'opposé.
Ben moi, ce qui me frappe, c'est que ce n'est pas un film de guerre, si je puis dire.
Ah, Pierre Billard.
C'est-à-dire que ça me paraît quasi l'antithèse. C'est-à-dire la guerre, c'est le combat. Ici, il n'y a pas de combat. La guerre, c'est la lutte contre l'ennemi. Ici, il n'y a pas d'ennemi. On les aperçoit deux ou trois fois, ils passent sur une route dans le lointain, ils ne jouent pas de rôle. La guerre, c'est la communauté, ce sont des milliers d'hommes, c'est une hiérarchie. Ici, c'est un être seul qui fait sa guerre à lui tout seul. Dans une situation de guerre, c'est une aventure humaine, dans tous les sens du mot, c'est-à-dire individuelle, et d'un homme qui se désagrège moralement, psychologiquement, physiquement. C'est presque plus une aventure humaine qu'une aventure. En tout cas, ce n'est pas une aventure militaire.
Je crois que c'est très intéressant ce que vient de dire Billard. Au fond, je crois que vous l'avez senti, ce n'est pas un film d'action. C'est un film réflexif, c'est une méditation sur la guerre, mais ce n'est pas un film racontant une histoire de guerre. Il y a la volonté de traiter le sujet à travers un cas très particulier, très personnel, de traiter un sujet universel, et en décrivant concrètement des situations typiques ou extrêmes, paroxystiques, comme aime le faire souvent Ishikawa, d'en tirer des leçons définitive, si vous voulez. Et je reviens à ce que disait Chéret, je ne suis pas tout à fait d'accord, dans la mesure où, justement, L'Harpe birmane est aussi un film qui est une méditation plus lyrique que dramatique, bien sûr. L'Harpe birmane, c'est la suite de ça. C'est-à-dire, le héros n'est pas mort, mais le héros est traumatisé par la guerre. Mais la guerre est une blessure, une cicatrice qui ne peut pas se refermer.
On a parlé ici de films contre la guerre, c'est incidemment un film contre la guerre, c'est un film surtout sur la défaite, disons. Et il y a une chose qui me gêne tout de même un petit peu, c'est que ça fait un peu, si vous voulez, un peu tout de même plaidoyer.
Alors, est-ce que c'est un film qui est, au fond, un film sur la défaite ou contre la guerre ?
Il y a les deux, mais il y a tout de même un élément qui peut paraître un peu gênant, c'est... dès l'instant qu'on se rappelle du contexte historique, tout de même, bien sûr, il y a toujours un peu une responsabilité collective dans des aventures comme ça. On sait très bien jusqu'à quel point il y avait eu un assentiment, en grande partie collectif, de la part des Japonais, il faut bien le dire, malheureusement. Or, dès l'instant qu'on fait un film comme ça, il est certain que dans leur esprit, pour l'usage interne là-bas, ces films-là sont faits un peu dans l'intention, évidemment, de viser également les timbales de grands prix internationaux dans les festivals, mais en même temps... pour permettre aux spectateurs japonais de s'apitoyer un petit peu sur ses propres souvenirs, sur ses propres malheurs, si vous voulez.
Oui, mais est-ce que c'est en se lavant les mains?
Oui, moi, je ne dis pas en se lavant les mains.
Enfin.
Je trouve qu'il y a peu de films de guerre, puisque malgré tout la guerre est là, qui soient aussi peu affectés d'un facteur nationaliste. Enfin, il y a peu de films montrant un état de guerre dans lequel on se sente si peu solidaire du camp du pays qui l'a produit. Le résultat, c'est qu'à aucun moment, vous ne verrez à un seul moment dans ce film quelqu'un du camp opposé faire quelque chose qui justifie le combat. Et au contraire, vous verrez les Japonais s'enfoncer peu à peu dans une horreur qui, même justifiée par leur malheur, me paraît quand même pas de nature à provoquer l'apitoiement sur ces gens-là. Je ne crois pas qu'on sorte de ce film en se disant « Oh, ces pauvres petits Japonais, vraiment, qu'est-ce qu'ils ont souffert ?» À la limite, on risque d'en sortir avec une réaction primaire en disant, j'ai eu peur que tout à l'heure quelqu'un ait tendance à le dire, ça prouve bien que c'est une bande de sauvages, ce qui n'est pas de la très bonne propagande.
Il me semble être déshonoré que de trouver de la compassion tout de même pour les souffrances de ces gens.
Non, mais certainement, il y a compassion pour les souffrances japonaises, mais pour les souffrances de toute victime de la guerre et de tout homme qui l'a fait. Et je crois dans le groupe, Billard citait le cas des Américains, le cas des Japonais, mais je crois que, il y a une ellipse qui est très forte dans le film, c'est le cas des Philippins, notamment symbolisé par ce village abandonné où on vient tuer deux innocents. Je crois que si dans le film il y a des gens qui nous sont sympathiques parce qu'ils sont chez eux et ils sont pratiquement désarmés, ce sont les Philippins.
Mais d'ailleurs, il les tue parce qu'il a une trouille, une peur aussi intense que ses propres victimes. Il les tue presque...
Par peur, oui.
C'est vraiment par un réflexe. Il ne le tue pas volontairement.
On ne les voit jamais tuer avant d'être arrivé à un tel degré d'énervement, de faiblesse, de besoin, que cet assassinat en redevient quasi légitimé. On est ici complètement sorti de la logique militaire.
C'est un film anti-héroïque. Il n'y a pas, dans ce film, aucune image, aucun personnage qui nous donne l'impression, en temps de guerre, de faire un acte qui suscite l'admiration ou l'approbation.
Il me semble quand même qu'il y a film des moments d'une sensibilité ou d'une sensualité dans l'image qui est très remarquable. Je pense plus spécialement à deux petits moments. Le moment où il trempe ses pieds dans l'eau, où il ramasse une fourmi, où il la prend et il la rejette. Vous avez, je suppose, senti quelque chose. À ce moment-là, on a un sentiment de vérité, on a un sentiment d'eau qui coule sur l'écran, on a un sentiment de pied qui se rafraîchit, on a envie de ramasser cet insecte. Ce sont de ces moments de cinéma où tout d'un coup, on est absolument dans le film, totalement. Et il y en a un autre que j'ai trouvé absolument merveilleux, et qui est l'image, qui sont les deux plans du bras de l'officier devenu fou, enfin du soldat devenu fou qui parle de Bouddha, là, au moment où le type lui dit « mais reste là et tu pourras manger ça ». Et à ce moment-là, il y a deux images merveilleuses du bras traversant tout l'écran, une espèce d'image presque gracieuse, ça pourrait être un bras dans une scène d'amour, enfin c'est très beau. Et je trouve qu'il y a une espèce de tendresse à un moment de cruauté extrême qui crée un choc et qui est à la fois horrifiant et attendrissant, et que ce sont de ces moments-là qui font que ce film est autre chose qu'un pamphlet contre la guerre ou tout ça, que c'est un grand film.
Bon, est-ce qu'il n'y a pas justement quantité d'images qu'on pourrait reprendre une par une? Il me semble qu'on pourrait en citer beaucoup. Monsieur?
Je pense qu'il y a une insistance très forte sur les images de sang, le sang qui s'étale, le sang qui jaillit.
Oui.
Pour la jeune fille qui est tuée, après, lorsque, dans la scène de cannibalisme, si on peut dire, sur le visage... Et dans bien d'autres scènes encore.
Oui. La scène, moi, qui me frappe plus, la scène qui me paraît la plus épouvantable du film, c'est une image, je crois, qu'on n'oubliera jamais, c'est la scène de la mort du chien, le village abandonné. Je crois que ça, c'est vraiment terrifiant, là.
Je ne sais pas s'il y a un goût du sang pour le réalisateur, ou une horreur, parce que ça revient tout le temps dans le film.
Oui, d'accord, c'est un film où il y a du sang, mais c'est vrai aussi que ce sang, c'est un signe. Enfin, c'est pas seulement du sang dégoulinant, c'est pas de l'hémoglobine, enfin, c'est autre chose, je trouve. Et cette autre chose se retrouve dans l'architecture des images. C'est un film dont les images sont toujours très belles et toujours très composées. Donc, ce n'est pas un film qui cherche à nous entraîner viscéralement dans des impressions naturalistes, une fois de plus. Enfin, il y a toujours une espèce, excusez-moi, alors là, vraiment, énormément de guillemets, une espèce de distanciation réelle, je crois. Il y a toujours une orchestration de l'image qui fait que nous jugeons quand même constamment, enfin, quoi que nous soyons évidemment concernés par, très, très, très intimement par ces signes.
Effectivement, on garde les traits significatifs essentiels, mais cette objectivité, je crois, du témoin est complétée par le héros du film, et le film est quand même à la première personne, si bien que nous entrons dans cette objectivité, dans cette guerre qui nous est montrée en témoin de l'extérieur, nous y entrons en nous mettant de temps en temps dans la peau de Tamura, et ça me paraît essentiel. Madame?
Je crois justement qu'il y a une atmosphère dans ce film, elle est donnée par les bruits et les silences, parce que j'étais extrêmement sensible aux bruits, surtout lorsque le héros principal s'en va et qu'il traverse des broussailles. Alors là, c'était vraiment absolument extraordinaire. Moi, je trouve que ça donnait une intensité très grande au point de vue dramatique. Et d'autre part, le silence aussi m'a beaucoup frappée. Et lorsque la musique survient après ce silence, je crois que là, il y a une progression dramatique.
Oui, ça m'amène à préciser une chose aussi, je crois que nous avons tous ressenti, mais qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que la nature est constamment présente dans le film, bien sûr, mais elle n'est pas seulement un cadre. Mais enfin, elle participe. Prenez la scène du ruisseau, par exemple, où le Tamura vient s'abreuver, pas. Il y a là une volonté de symbole un peu évidente, bien sûr. C'est la nature indifférente, la nature qui continue la vie parce qu'elle ignore ses sottises. L'acte de guerre est une conduite antinaturelle ils sont condamnés et on ne peut pas les plaindre parce qu'ils luttent contre la nature.
Les spectateurs sont d'accord aussi dans la salle pour dire qu'ils ont été touchés au niveau de la tripe. Au niveau de la tripe, je crois que c'est le procédé le plus bas, enfin le plus facile pour toucher le spectateur, c'est-à-dire c'est horrible, le sang, les gens qui mangent de la terre, les gens qui se traînent par terre. Enfin, il y a 7 ou 8 gros plans, enfin 10 gros plans sur le sang, sur les gens qui sont tués, le sang qui coule, le sang qui sort d'une blessure, ce type qui mange de la terre. Il y a ce qui est la part de la guerre, puis il y a ce qui est la part d'Ishikawa. Ça peut être très bien dans la mesure où on n'insiste pas, mais en fait, je crois qu'il y a un désir d'expression là-dedans qui est très gênant.
Moi, je voudrais répondre parce que ce que vous venez de dire me paraît très intéressant, d'autant plus que je crois que vous traduisez sans le savoir, j'espère, une opinion très répandue qui risque d'être souvent l'opinion du spectateur français devant un film comme ça, qui est l'opinion, à mon sens, la plus effroyable et la plus répugnante qui soit, à savoir l'opinion des hommes de goût. Vous n'aimez pas le sang. Ce sang qui dégouline, ça vous horripile. Et puis, en même temps, d'ailleurs, vous voulez plus de naturalisme, ce qui obligerait alors à mettre du sang partout et vous seriez encore bien moins content. Vous êtes horrifié, affolé et scandalisé parce qu'on vous montre enfin une guerre un peu moins hygiénique que celle que vous voyez dans les films français, dans les films américains, où tout est toujours très joli, très propre, où on passe discrètement sur ce qui se passe dans les blessures, ce qui se passe une fois que le plan est coupé, là, parce que le metteur en scène a du talent et que les gens se mettent à dégueuler dans les coins. Vous êtes horrifié parce que tout d'un coup, on vous montre la guerre sous un jour un peu moins esthétique et un peu plus vrai, sans aller du tout très loin, parce qu'on pourrait, Dieu sait, en mettre 500 fois plus. Et tout d'un coup, vous vous dites que, oh, comme c'est triste et comme c'est pas beau et comme c'est sale. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est beau, d'ailleurs. Et c'est pour ça que, quand on a parlé de l'abondance du sang dans ce film, on a rendu un hommage non pas à la qualité esthétique du film, mais simplement à la vérité de ce qu'il exprime. Et moi, ce qui me frappe dans ce film, c'est que, dans un certain nombre de films japonais sur la guerre, c'est que, par une espèce de naturel dont je ne connais pas la source, ils sont plus simple dans la peinture de l'horreur, alors que nous sommes d'une telle propreté que nous n'avons jamais été foutus de faire un film de guerre qui fasse vomir les gens dans la salle comme on devra à chaque fois qu'on voit un film de guerre.
Voilà une position nette.
Mais je ne critique pas le sang qui coule, je critique la manière dont le sang coule. Il y a bien évidemment une manière logique de faire voir le sang couler en temps de guerre, et ça me semble absolument illogique. Et je ne dis pas que le sang ne coule pas assez dans ce film, je dis que le sang coule de manière anormale, je sens le schéma derrière. Je sens, comme on l'a dit tout à l'heure, je sens le metteur en scène qui dit le sang doit couler à cette scène.
Mais c'est un leitmotiv symbolique,
bien sûr, mais
n'est-ce pas?
Je parle du leitmotiv, moi je
oui,
parle justement du leitmotiv.
C'est la vie qui coule.
C'est ce que j'en reproche au film.
C'est la vie qui coule, les veines crevées, la vie qui s'en va de façon stupide.
Évidemment, chaque fois que quand un type est blessé à mort, c'est
moi, personnellement, je me mettrais volontiers en intermédiaire entre Billard et vous, monsieur. Je pense qu'en partie, vous avez raison quand vous sembleriez supposer que dans la mise en scène, il y a une part de recherche de l'effet. Je pense que, en partie, c'est peut-être vrai. Mais d'un autre côté, tout de même, il y a la nécessité des situations. Une situation donnée veut qu'un monsieur mange de la terre avec ses excréments. On ne peut pas faire autre chose que de le montrer. Ensuite, il y a un autre élément qu'a rappelé très justement Billard, à savoir que le critère de jugement d'un spectateur européen sur un film japonais me semble faussé au départ. Eno l'a dit tout à l'heure lors de sa présentation du cinéma japonais. Il est certain, si vous jugez un cinéma japonais à travers une sensibilité, occidentale, européenne, et je vais même plus loin, pas seulement européenne, mais disons française et parisienne. Là, vous êtes un peu à côté, forcément, parce que le côté frénétique du film, et c'est bien parce qu'il s'agit d'un film de guerre japonais, ce côté convulsif, nous l'avons dans énormément de films japonais. Il faut le prendre en tant que caractéristique, si vous voulez, japonaise.
Mizoguchi fait couler le sang dans ses films d'une manière radicalement différente. Il y a une manière de montrer la perte de la dignité chez un homme, une manière digne de montrer ça, puis une manière voyante, indigne, de faire voir la perte de la dignité. Il me semble que c'est une manière indigne.
Il serait tellement plus simple d'admettre en même temps, et Ishikawa quand il fait feu dans la plaine, et Mizoguchi quand il fait autre chose. Ils sont deux tempéraments différents qui s'expriment donc différemment. Pourquoi, si vous voulez, en tenir pour un contre l'autre? Essayons de les apprécier tous les deux.
C'est une mise au point à faire. Le spectateur français normal a une certaine prévention à l'égard du cinéma japonais parce qu'il a un certain nombre de schémas dans la tête. Il est victime d'un certain nombre d'images d'épinal. Pour lui, par exemple, le japonais est cruel. Et les films surtout des films historiques, des films sabres, des films sur la dernière guerre, qui ont été projetés en France, ont entretenu un peu cette idée, parce que effectivement, les cinéastes japonais, lorsqu'ils traitent ce genre de sujet, car ils ne font pas que cela, mais lorsqu'ils traitent la guerre, la violence, ils montrent la guerre, ils montrent la violence, concrètement, ils vous y intègrent. Peut-être parce que, pour eux, d'abord, ils ont vécu ces situations de façon plus forte que nous, et ensuite, il y a peut-être un héritage, une autre forme d'expression. Mais je pense que nous devons aussi faire notre pas en avant. Vous citiez Mizoguchi tout à l'heure, et comme je le craignais, nous avons eu les mêmes réactions aujourd'hui que lorsque nous avons passé l'intendant Sancho l'année dernière, où un certain nombre de dames s'évanouissaient dans la salle, et on nous a dit on n'a pas le droit de faire des choses comme ça. Or l'intendant Sancho, c'est aussi un film horrible, et c'est véritablement un très beau film, mais où la cruauté n'est jamais complaisante, parce que ce n'est pas la cruauté de Mizoguchi, c'est la cruauté de la vie.
Il me semble que dans l'intendant Sancho, on a parlé du sang qui coulait, il y a une manière... disons que j'estime valable de faire voir le sang qui coule, il y a une manière qui me semble justement digne, qui s'adresse à un spectateur intelligent, et puis il y a une manière voyeuriste de faire voir le sang en train de couler, qui est celle-ci. Ishikawa, bravo quand il nous fait l'arbre de Birmanie, quand il nous fait ça, non.
Madame.
Le côté interprétation, ne pensez-vous pas que l'acteur principal est, d'abord ne paraît pas japonais, n'est-ce pas? Et puis, au moment les plus pathétiques, où il crève de faim, de misère, il coule des regards trop appuyés, enfin, je trouve que, d'une façon générale, dans les films japonais, le côté interprétation est toujours trop poussé, ils ne sont pas merveilleux comme interprétation.
Voilà un point qui me paraît extrêmement intéressant aussi. Oui. Vous voyez la réflexion de cette dame, elle dit « leur jeu est trop appuyé », elle ne dit pas « le nôtre n'est pas assez appuyé », n'est-ce pas? Alors, c'est ça qui est très intéressant, je crois, n'est-ce pas? C'est qu'on nous dit, par exemple, des films orientaux, leur rythme est beaucoup trop lent. Les orientaux pourraient nous rétorquer, votre rythme est beaucoup trop rapide. Ben, je crois que c'est ça le bon à faire en avant, si vous voulez, c'est notre effort d'adaptation. Sortons de nos normes, sortons de nos valeurs, de nos principes, de nos habitudes de pensée, de vie, nos règles, même nos règles artistiques, pour essayer de nous intégrer à une autre civilisation avec laquelle nous l'avons vu quand même par-delà les formes, il y a énormément de points communs. Monsieur ?
Je crois en effet que cet effort est à faire. Et je voudrais rappeler à ce jeune homme que s'il y a un peuple qui ne peut pas reprocher aux autres d'étaler le sang et de le faire couler, c'est bien la France, puisque notre littérature est sanguinolente d'un bout à l'autre. De la chanson de Roland, n'est-ce pas, jusqu'à la condition humaine, en passant par le Cid et la Marseillaise. Et encore, non seulement on fait couler le sang, mais on en fait de la teinture. Tous les écoliers de France connaissent ce vers ridicule. Quoi? Du sang de mon père, encore tout trempé. Alors franchement, c'est pas à nous de faire la petite bouche sur le sang japonais.
Nous reprendrons bien sûr ce sujet la prochaine fois, puisque nous parlerons plus précisément d'un certain nombre d'auteurs, de films et de thèmes du cinéma japonais contemporain. Aujourd'hui, je crois que nous n'avons quand même pas perdu notre temps, dans la mesure où nous avons vu un film qui traite un sujet universel qui nous concerne tous, qui le traite de manière apparemment différente des formes auxquelles nous sommes habitués. Et je crois que la leçon à tirer de cette séance, c'est un peu une leçon de modestie. L'Européen, l'homme blanc, n'est-ce pas, doit apprendre l'existence d'autres civilisations originales et doit faire l'effort d'accepter d'y entrer par d'autres chemins, n'est-ce pas? Que ces films-là soient lents, que ces films soient interprétés d'une manière différente, que les symboles, la façon de présenter le monde et de le réduire en signes soient différentes, c'est vrai. Mais je crois que ce qui compte dans la vie, mais ce qui compte aussi en art, c'est la différence. La différence, mais bien entendu la similitude aussi, parce que quand nous grattons un peu ce vernis apparent, ces formes qui nous paraissent tout à fait lointaines, nous retrouvons rapidement des réalités humaines, nous retrouvons facilement l'universel. Or, je répète encore un lieu commun, une banalité, mais il faut sans cesse la répéter, le cinéma est l'art le plus authentiquement national, c'est un art qui doit s'enraciner, il faut bien le répéter aujourd'hui, ou prolifère les coproductions. Or, le cinéma japonais est d'abord pour nous, je crois, le reflet admirable d'une civilisation admirable, lointaine, mais qui par là même, je crois, doit encore plus nous attacher.
La RTF vient de vous présenter en différé « Connaître le cinéma », une émission publique de Jean Mitry et Philippe Hénaud. Aujourd'hui, le cinéma japonais, avec la projection d'un dessin animé japonais et de « Feu dans la plaine » de Konishikawa. Commentaires et débats avec la participation de Pierre Billard, Jean-Louis Chéret, Pierre Philippe et des spectateurs du studio Parnasse. Assistante de réalisation Nicole Guesveler, prise de son André Banal, régisseur de la scène Georges Richard. Prochain enregistrement de Connaître le cinéma, le jeudi 2 avril à 16h au studio Parnasse à Paris, le cinéma japonais, deuxième séance. Adressez tout courrier concernant cette émission à Connaître le cinéma, maison de la RTF, 116 avenue du Président Kennedy, Paris 16e.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 21 mars 1964 sur France 3 Nationale. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Thank you.